Accent d'Europe, Laurent Berthaud, Nathalie Amar.
Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Au sommaire, la promotion des littératures nationales à l'étranger.
Aux Pays-Bas, un fonds pour la littérature joue un rôle primordial dans la diffusion de ces auteurs en Europe, alors qu'en Roumanie, le site Observer Translation Project propose des textes contemporains en plusieurs langues.
En France, le cri d'alerte des associations d'éducation populaire.
Elles sont au bord de l'asphyxie financière, privées de subventions publiques. Reportage dans une association qui organise des loisirs pour enfants autistes.
Mais des jours meilleurs viendront, c'est ce que promet une pièce de théâtre joué en ce moment à Madrid.
Días Mejores, une comédie des années 80 qui reprend tout son sens en plein marasme économique.
Et puis une première sur le continent, un diplôme universitaire de finance islamique.
Depuis janvier, 36 étudiants venus de toute l'Europe suivent à Strasbourg des cours de finance conformes aux préceptes du Coran et de la charia, la loi islamique.
Ce sont des exportations qui n'entrent pas en compte dans la balance du commerce extérieur, les exportations de livres. Et pourtant, les Pays-Bas y consacrent, Laurent, beaucoup de temps et beaucoup d'argent.
Depuis 17 ans, un fonds néerlandais finance à grands frais la traduction d'ouvrages dans de nombreuses langues, y compris asiatiques. Plusieurs éditeurs européens se sont laissés séduire par les auteurs bataves qui ont trouvé de nouveaux lecteurs de Berlin à Pékin. Paris réussit donc pour ce fonds de production et de traduction, autrement appelé les NLPVF, Sabine Sessou.
Chaque année, 500 œuvres néerlandaises sont publiées à l'étranger. Depuis sa création en 1991, le NLPVF aide à la traduction de la moitié d'entre elles. Il y a beaucoup d'argent à la clé, le budget annuel du Fonds de production et de traduction de la littérature néerlandaise est de 3,5 millions d'euros. Le fonds a par exemple permis à la France de connaître l'un des auteurs les plus importants des Pays-Bas, Willem Frederik Hermans. La Chambre noire de Damoclès, l'un de ses romans, est un classique de l'après-guerre aux Pays-Bas. Il a été publié en néerlandais en 1958 et finalement été traduit en 2006 chez Gallimard. Mais Henk Popper, le directeur du NLPVF, reste modeste. Faire exister la littérature néerlandaise à l'étranger, c'est un pari qui, pour lui, n'est pas encore gagné.
Il faut être honnête, la France, c'est un pays qui a l'image d'un pays littéraire, philosophique. On ne peut pas dire la même chose pour les Pays-Bas. On a l'image des Pays-Bas comme un pays de peintres, par exemple. Et maintenant aussi un pays d'architectes, de designers, de graphistes.
Tommy Wieringa a lui aussi été traduit en français. Les droits de son dernier roman, Joe Speedboat, ont été vendus dans 13 pays. Il a déjà été traduit en 5 langues, parmi lesquelles le tchèque et le nord-coréen. Tommy Wieringa nous rappelle toute la difficulté de la traduction.
Le fonds est très important. Bien sûr, ce n'est pas lui qui gère les droits de mes livres, c'est mon éditeur, mais le fonds peut être crédité de la moitié de mes ventes à l'étranger. Ça fait 15 ans que j'existe aux Pays-Bas et j'ai pu voir ma carrière littéraire évoluer. Ailleurs, en France ou en République tchèque, je dois encore faire mes preuves. Je ne suis pas connu, je n'y ai aucune influence. Tout se passe comme si c'était mon premier livre. C'est très difficile d'avoir du succès à l'étranger. Quand ça arrive, c'est un miracle.
Henk Popper, le directeur du fonds, passe un temps considérable à l'étranger. Pour lui, le Salon du Livre de Francfort est un grand rendez-vous annuel.
La littérature est connue au plan international depuis 1993. Les Pays-Bas étaient pour la première fois invités d'honneur au Salon de Francfort. C'est le lieu où on découvre des littératures. Ce moment-là était pour nous vital. C'est depuis ce moment-là qu'on regarde la littérature néerlandaise avec un œil un peu ouvert.
Tommy Wieringa est l'un des auteurs à avoir vu Henk Popper à l'œuvre. Il en fait d'ailleurs une description assez littéraire.
J'ai vu le directeur du fonds à Francfort. Il travaille comme un fou et s'agite dans tous les sens. On dirait le cardinal Richelieu. Il intrigue pour promouvoir la littérature néerlandaise partout dans le monde.
L'Allemagne et la France sont les principaux débouchés de la littérature néerlandaise. Tiziano Pérez, chargé de la promotion au sein du fonds, organise toutes sortes d'événements. Le dernier en date consistait en des soirées cabaret à Munich, en Allemagne.
Nous avons organisé une série d'événements à Munich avec la Maison de la littérature pendant plus d'un mois, à raison d'une ou deux fois par semaine. Nous avons commencé par des soirées musicales et théâtrales avec lecture en musique et des projections de films. Ça s'appelait Café Amsterdam. Nous avons transformé cette maison de la littérature en bar d'Amsterdam. C'était drôle et festif. Ça a très bien marché.
And it worked really well.
Sans le fond, les très grands auteurs néerlandais existeraient certainement, comme Anna Enquist, la plus traduite des romancières néerlandaises. Mais les autres resteraient sans doute prisonniers de leur langue et de leur marché. Henk Popper, le directeur du fonds, ne se limite pas à l'Europe. Pour lui, le monde entier est un potentiel.
Dans mon travail, je regarde toujours des questions démographiques. Je regarde par exemple le nombre d'universités dans un pays. S'il y a beaucoup d'universités, il y a aussi beaucoup de lecteurs. Par exemple, en Turquie, et déjà en Istanbul, il y a 26 universités. Au Brésil, en Chine, aux Indes. Il y a une envie aussi de lire.
L'initiative est exemplaire. Ses moyens et sa mission peuvent être comparés à un seul institut similaire en Norvège, mais à aucun autre exemple en Europe.
Plus modeste peut-être, mais tout aussi déterminé, il y a, Laurent, ce site internet roumain qui propose de découvrir des auteurs contemporains.
À lire soit en version originale, mais aussi dans de nombreuses langues européennes. À l'origine de ce site internet, une revue culturelle littéraire dont l'objectif, là encore, est d'accrocher un éditeur à l'étranger. Précision de Marion Guillon-Varche.
Une petite équipe est en train de bouleverser le paysage littéraire roumain. Leurs armes, des traducteurs confirmés et internet. Depuis septembre dernier, quatre journalistes de l'hebdomadaire Observateur Cultural ont en effet lancé un site baptisé The Observer Translation Project pour faire connaître, enfin, les écrivains roumains contemporains en dehors des frontières. Chaque mois, avec la collaboration d'une dizaine de traducteurs, le site publie ainsi des fragments d'œuvres en 6 ou 7 langues. Mircea Cărtărescu, Gheorghe Crăciun, Stelian Tănase ou Radu Coșasu, des auteurs réputés en Roumanie mais peu connus à l'étranger, ont ainsi été traduits en anglais, français, allemand, italien, espagnol, mais aussi néerlandais, hongrois ou polonais. Résultat, leurs textes sont désormais consultables dans le monde entier, ou presque. Soutenu financièrement par Observateur Cultural, cet ambitieux programme de traduction fonctionne surtout grâce à la motivation et au travail acharné de ces passionnés de littérature. Le site n'a que quelques mois et s'est surtout fait connaître par relation et par bouche à oreille. Mais déjà, les premiers échos sont plus que satisfaisants. Et la petite équipe semble bien partie pour réussir à promouvoir la création littéraire roumaine actuelle. Le nombre de visiteurs est en effet en augmentation constante et des sites de référence du monde littéraire, notamment aux États-Unis, reprennent régulièrement des fragments publiés sur le site. L'équipe rêve donc désormais d'élargir son audience auprès des amateurs de bonne littérature, mais surtout en direction des maisons d'édition étrangères, qui avec ce site disposent de l'outil idéal pour repérer et éventuellement publier les écrivains roumains. C'est en tout cas ce qu'espèrent les initiateurs du site.
Et pour découvrir à votre tour la littérature roumaine dans la langue de votre choix, il suffit de taper « Observer Translation Project » dans votre moteur de recherche.
Reportage. En France, il n'y a pas que le secteur privé qui soit en plein doute. Dans le secteur associatif aussi, on s'inquiète car les subventions pour l'année 2009 ont été sévèrement diminuées.
Une décision prise avant la crise, mais que la crise risque d'amplifier. Les associations dites d'éducation populaire sont particulièrement inquiètes. Elles s'occupent notamment d'accompagnement scolaire, de centres de loisirs ou encore d'activités sportives et culturelles. Leurs subventions ont été diminuées d'environ un quart pour 2009. Catherine Potter a rencontré à Paris les responsables d'une association en grande difficulté qui s'occupe d'enfants autistes.
Mais on est rappelé aller au tribunal le 2 avril.
Aujourd'hui, Sophie et Majid Kabdani ont appris une bonne nouvelle. Leur association est mise en redressement judiciaire, c'est-à-dire qu'ils échappent à la liquidation judiciaire. Ils obtiennent un délai supplémentaire pour tenter de sauver à chacun ses vacances l'association qu'ils ont fondée ensemble il y a tout juste 5 ans et qui organise des loisirs et des vacances pour les enfants handicapés, notamment autistes ou trisomiques. Ils ont bien sûr le soutien de la présidente de l'association, Eva Robinson, qui est elle-même la mère d'un jeune homme trisomique.
Je vais par rapport à mon fils, c'était un garçon qui était très timide et je crois que le fait qu'il avait eu un espèce de lien avec les animateurs, et le fait qu'il a pu essayer des activités différentes sans au début s'engager trop, enfin c'est-à-dire que, par exemple, il a commencé à faire du théâtre, en fait, on a vu... notre Hugo, qui était avant très discret, très dans son coin, comme ça, va pouvoir se mettre sur un estrade face à un public. Et tout ça parce qu'il y a un entourage qui est très rassurant, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de compétition. On ne demande pas autre chose qu'à un moment à passer ensemble. Et on souhaite tous que ça va pouvoir continuer aussi bien que dans le passé, mais avec plus de facilité pour l'équipe, en fait.
Car il existe très peu de structures prenant en charge les handicapés en dehors du temps passé à l'école ou en institution. Très peu de structures, car très peu de moyens.
C'est pas normal que ce soit aussi peu soutenu par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme s'il faut toujours aller chercher de l'argent du côté de mécénat, etc., de l'argent privé. Et du côté de l'État, en fait, c'est des gens qui suivent, mais qui ne proposent absolument rien. Il y a un moment, on commence à être vraiment en colère. Enfin, moi, je sais pas, mais c'est injuste. Et j'espère que vraiment, en fait, l'exemple qu'on donne à quel point c'est difficile de faire des choses de qualité, j'espère que ça va vraiment ouvrir les yeux un peu plus aux gens qui tiennent les cordons des bourses, en fait, pour nous aider.
Courir après les subventions publiques ou les fonds privés, cela fait partie du quotidien pour Majid Kabdani, cofondateur de cette association qui a compté jusqu'à une vingtaine de salariés. Mais ce qui a fini par mettre à chacun ses vacances en difficulté, c'est la baisse continuelle des contrats aidés. Il s'agit d'emplois en grande partie financés par l'État, l'association se chargeant de former les jeunes occupant ces emplois.
On a beaucoup fonctionné avec les contrats aidés, qui tout le monde le sait aujourd'hui dans tous les milieux associatifs, hein, pas forcément dans le milieu de l'handicap, ça ne cesse de baisser. Hein. Les contrats aidés, c'est pratique, c'est bien. En même temps, c'est des contrats précaires, les gens, bah, ils sont là. Alors pour ceux qui sont les plus motivés, ils le prennent comme une expérience, un premier job, et puis après, ça crée des vocations. Après, il y a le fonctionnement, on a besoin de locaux, on a besoin de véhicules, on a besoin d'argent pour faire des activités.
Donc là, vous venez d'être placé en redressement judiciaire. Comment est-ce que vous voyez l'avenir alors que, a priori, le contexte politique, économique n'est pas très favorable au monde associatif ?
Alors, on continue. Par contre, on ne va pas continuer sous le même format. On va essayer de ne plus avoir de salariés en contrat aidé. Mais on va essayer de devenir vraiment une structure de formation pour pouvoir créer des vocations, pour pouvoir accueillir nos jeunes. Toujours dans le même principe de un référent, un jeune. Pendant 3 ans, on va tout faire pour pérenniser à chacun ses vacances, en tout cas sur le périscolaire et les activités du week-end. L'avenir, on le voit bien. Petit à petit, on va y arriver, ça c'est sûr.
La volonté et la motivation sont toujours là pour Majid et Sophie. Elle est éducatrice sportive spécialisée et directrice de l'association. Et elle sait que les jeunes attendent la reprise des activités avec impatience.
Les activités sportives marchent super bien. La piscine, le VTT roller, c'est des activités qui cartonnent auprès de nos jeunes ados et jeunes adultes. Parce que c'est pas toujours des activités qu'on ose leur proposer. Et là, c'est quelque chose qui leur correspond bien.
Pourquoi on n'ose pas leur proposer? On pense qu'ils sont pas capables de le faire?
Je pense que c'est quelque chose qu'on n'ose pas proposer parce que c'est déjà des pratiques à risque à la base, alors que la plupart ont un très très bon équilibre, donc ça leur correspond bien. Et la piscine, c'est par rapport, je pense, au regard des gens, des choses comme ça. Et donc comme on va en séance publique, on a souvent des retours de personnes qui disent « Ah mais ils peuvent faire ça, ils font ça, ah, mais ils se débrouillent bien, voilà. » Et puis aussi ils ont besoin de se dépenser, d'évacuer, donc ça correspond à tous ces critères.
Les 120 familles qui font régulièrement appel à l'association pour les loisirs ou les vacances de leur enfant handicapé espère une reprise prochaine des activités.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, s'il vous plaît.
Sortir.
La crise économique plombe les budgets, elle mine aussi le moral des Européens. Alors pourquoi ne pas prendre un peu de recul et en rire un peu, Laurent ?
Le rire et la dérision comme remède à la sinistrose, c'est la thérapie appliquée par un metteur en scène espagnol. Le catalan Alex Rigola, au nom prédestiné, remet en fait au goût du jour une comédie écrite dans les années 80, Días Mejores, des jours meilleurs. Dans la salle du prestigieux théâtre madrilène Abadia, il y avait François Musso.
D'emblée, le décor vous donne la sensation de crise. Un canapé râpé, un sol jonché de détritus et de canettes de bière, des bouts de plastique en guise de fenêtre. C'est l'intérieur d'un salon dans lequel défilent 6 personnages qui sont tous victimes d'une terrible conjoncture économique. 4 hommes et 2 femmes, l'un après l'autre, ils perdent leur emploi à l'usine, se livrent à des petits trafics qui se soldent par des échecs fracassants. Et en ville, le froid est terrible, des centaines de gens se réfugient dans les abris. Et face à la scène, le spectateur est témoin de récits qui font froid dans le dos, les personnages s'abandonnant à la désespérance ou au cynisme. Le texte a été écrit dans les années 80 par l'Américain Richard Dresser, qui relatait ainsi sa dure expérience dans le Massachusetts aux États-Unis. Et comme toutes les crises se ressemblent, en tout cas d'un point de vue psychologique, le Catalan Alex Rigola a eu l'idée de transposer cette pièce dans l'Espagne d'aujourd'hui, un pays qui subit de plein fouet le chômage avec 1 million de nouveaux demandeurs d'emploi en un an. Et l'idée fonctionne plutôt bien, malgré certaines exagérations. Et on comprend aussi en parallèle, dans l'Amérique d'alors ou l'Espagne d'aujourd'hui, une soif spirituelle. Sur la scène, les personnages créent une sorte de secte, l'église de la divine garantie, une façon de se connecter avec le cosmos ou plus prosaïquement, de maintenir en vie la flamme de l'espoir, malgré le froid, malgré la faim, malgré aussi un désarroi social dont personne ne sait vraiment combien de temps il va durer.
Jeunes Européens, Européennes.
L'Europe, non, c'est notre pays.
C'est une première en France et en Europe continentale, un diplôme universitaire de finance islamique.
Et c'est l'école de management de Strasbourg en France qui vient d'innover en proposant ce cursus depuis le mois dernier. En Europe, une telle formation n'existe pour l'instant qu'en Grande-Bretagne, pays où s'est développée la première industrie de la finance islamique. Alors pour en parler avec nous, Émilie Defay, bonjour.
Bonjour.
Avant de s'intéresser au contenu de ces cours, Émilie, expliquez-nous précisément ce que recouvre le terme de finance islamique.
Eh bien, comme son nom l'indique, la finance islamique est étroitement liée à l'islam. Elle est donc conforme aux préceptes du Coran et obéit à la charia, la loi islamique. Alors concrètement, ça se traduit par l'interdiction d'investir dans certains secteurs de l'économie que l'islam réprouve, comme l'alcool, l'armement, la pornographie ou encore l'économie porcine. Mais au-delà de l'aspect religieux, la finance islamique se distingue de la finance classique par plusieurs grands principes. Le premier d'entre eux étant qu'elle est ancrée dans l'économie réelle. La finance islamique n'investit pas sur la virtualité. Chaque transaction bancaire ou financière doit être adossée à un actif réel. C'est donc une toute autre façon d'investir. On préfère éviter les transactions incertaines. Enfin, parmi les autres grands principes, on peut citer l'interdiction de la spéculation et des intérêts, ainsi que le principe du partage des pertes et profits entre emprunteurs et prêteurs.
Voilà donc pour les dogmes de cette économie, de cet enseignement. Qu'est-ce que vont précisément apprendre les étudiants ?
Eh bien, les cours commencent par une introduction à l'islam ainsi qu'à l'économie et aux droits musulmans. Mais le noyau dur de l'enseignement, c'est bien sûr l'apprentissage des techniques bancaires et financières islamiques, avec par exemple le régime juridique des contrats de droit musulman, le fonctionnement du droit bancaire et du droit des marchés financiers islamiques. Les cours sont dispensés à la fois par des universitaires et des professionnels, des avocats, des banquiers, des consultants qui sont là pour faire partager leur expérience professionnelle à de jeunes professionnels, car la plupart de ces étudiants travaillent déjà et suivent ces cours en formation continue. À noter que les cours sont dispensés en français et en anglais. La pratique de la langue arabe n'est pas indispensable, même si bien sûr c'est un plus.
Alors Émilie, quel est le profil des étudiants européens, pour la plupart inscrits, donc qui suivent cette formation ?
Eh bien, ce diplôme a suscité un grand intérêt au-delà des frontières de la France et même de l'Europe, puisque les 36 étudiants de cette première promotion sont de nationalités très diverses. Il y a des Français, des Allemands, des Luxembourgeois, des Suisses, mais aussi et surtout des Tunisiens et des Algériens. Deux tiers des étudiants sont issus de pays du Maghreb ou de l'immigration. La plupart sont musulmans et pour eux, cette formation est l'occasion de concilier convictions religieuses et ambitions professionnelles. Ce sont des avocats, des banquiers, des fiscalistes qui veulent se spécialiser dans un domaine où il y a pour l'instant pénurie. Et certains étudiants ne sont d'ailleurs là que pour booster leur carrière, comme ce jeune Français de 25 ans, dont c'est le cabinet qui a payé la formation pour répondre aux attentes des clients du Moyen-Orient.
Alors rapidement, Émilie, pour terminer, quels sont les débouchés ?
En fait, grâce à cette formation, ces étudiants acquièrent un statut d'expert de la finance islamique, un profil de plus en plus recherché par les banques, puisque ce secteur est en plein essor, aussi bien dans les pays musulmans que non musulmans. D'ailleurs, les banques classiques ont déjà développé des filiales dédiées à la banque islamique dans les pays musulmans. Elles ont donc besoin de gens formés dans ce domaine pointu.
Merci Émilie. Pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez vous rendre sur les sites de l'école de management de Strasbourg, www.em-strasbourg.eu.
Et un lien que vous retrouvez également sur la page d'Accent d'Europe de notre site internet. On rappelle l'adresse www.rfi.fr.
Accent d'Europe, une émission coproduite par RFI et la Deutsche Welle avec le soutien du programme Euranet.
Françoise Grelot était aujourd'hui à la réalisation, à la technique, Pierre Billot.